conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, saurons-nous bientôt ce qu'est l'énergie dite noire ? Il y a une bonne vingtaine d'années, les astrophysiciens ont constaté que l'expansion de l'univers est en phase d'accélération et que ça ne date pas d'hier, mais de plusieurs milliards d'années. Qu'est-ce à dire ? La gravitation, toujours attractive, tend à rapprocher les objets massifs les uns des autres, de sorte que la matière présente a pour effet de ralentir l'expansion de l'univers. Mais ce que montrent les mesures, c'est qu'un autre processus s'oppose à la gravitation et joue au contraire un rôle d'accélérateur. Il dilate de plus en plus l'espace et augmente sans cesse la vitesse de son expansion. Quel est le moteur de cette accélération ? Les physiciens parlent d'une mystérieuse énergie qu'ils qualifient de noire. Noire d'une part parce qu'on ne la voit pas directement, d'autre part parce qu'ils en ignorent la véritable nature. Mais cela ne les empêche pas, au contraire, de formuler des hypothèses. Par exemple, l'énergie noire pourrait être la bonne vieille constante cosmologique qu'Einstein inséra en 1917 dans ses propres équations de la relativité générale, cette théorie de la gravitation qu'il avait publiée 2 ans plus tôt, en 1915. En effet, si on donne à cette constante cosmologique le signe qui va bien, elle agit comme un écarteur d'espace, comme une force qui augmente progressivement les distances entre les objets, autrement dit les disperse spatialement façon puzzle. Et si la valeur de cette constante est suffisamment grande, elle a pour effet d'accélérer l'expansion de l'univers. Bien sûr, d'autres idées que celles-là circulent. L'énergie noire pourrait provenir d'une matière exotique, ou bien résulter de l'action d'une quintessence énigmatique, ou encore être un effet du vide quantique dont on sait qu'il est truffé d'énergie jusqu'à la glotte. Heureusement pour les chercheurs et pour nous, le télescope spatial Euclide conçu par l'ESA va bientôt les aider à faire le tri en recueillant de précieuses données. Lancé le 1er juillet 2023 et désormais bien installé à plus d'1 million de kilomètres de la Terre, il reçoit les lumières visibles et infrarouges émises par les galaxies jusqu'à des distances se comptant en milliards d'années-lumière. Voire loin dans l'univers équivalent à voir tôt, Euclide parvient ainsi à sonder son passé lointain et indiquer ce que fut la dynamique passée de l'expansion cosmique. Question, grâce à ce nouveau télescope spatial, les physiciens pourront-ils bientôt préciser la nature et l'évolution de l'énergie noire qui, si elle existe bel et bien, constitue la composante la plus importante de l'univers? Pour répondre à cette question, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Marc Huyandre, bonjour. Vous êtes astronome au CEA, astronome de jour, je crois, membre de la mission Euclide. Alors, vous vous présentez justement comme astronome, non pas comme astrophysicien. Est-ce qu'à vos yeux, il y a une différence entre ces deux métiers ?
Donc, bonjour Étienne, merci de m'accueillir aujourd'hui. Mon prénom, c'est Jean-Charles, en fait.
Qu'est-ce que j'ai dit ?
Jean-Marc.
Ah, mais pourtant, il y a écrit Jean-Charles sur mes notes.
Donc, astronome, astrophysicien, théoricien, donc on fait tous partie d'une grande famille. Et donc moi, j'aime me qualifier comme un chercheur scientifique qui collecte l'information. Ça implique la construction de systèmes d'observation, par exemple, contribuer à la construction d'un télescope révolutionnaire comme Euclide, et définir les méthodes d'observation, collecter le signal et bien formater ce signal, bien le disséquer pour le présenter aux astrophysiciens qui, eux, vont faire plus de sens, et puis vous donner donc une contrainte sur ce qui a été observé. Et enfin, vous avez les théoriciens qui arrivent sur le troisième tier, qui vont vous donner un cadre général à tout cela.
Mais en tant qu'astronome, est-ce que vous avez un chouchou parmi les hypothèses pour ce qui est de la matière noire et de l'énergie noire ? De quoi sont-elles constituées, selon vous, si vous deviez parier ?
Donc là, si on repart un peu sur le contenu, parce que le résumé était très très intéressant, peut-être que ça pourrait intéresser l'audience de voir un peu le rapport de force entre tous ces composantes. C'est-à-dire que avant qu'on ne découvre l'énergie noire en 98, dans les années 90, hein, et les deux équipes qui ont eu le prix Nobel par la suite, on ne connaissait que la matière noire et la matière dite baryonite, celle qui nous compose. D'accord. Mais avant ça, même la matière noire, qui elle avait été découverte 25 ou 30 ans, je sais plus, avant, on n'avait que la notion qu'il n'y avait que la matière baryonique. Donc moi, j'aime toujours dire que au jour d'aujourd'hui, on sait que, d'accord. Donc on sait aujourd'hui que si on prend en considération l'ensemble des forces et de la matière, des éléments qu'on peut quantifier dans l'univers. On va revenir, je suis sûr, dans notre échange aujourd'hui sur la manière dont on voit la matière noire se manifester. C'est que vous avez, en bilan énergétique, 69% de l'énergie connue dans l'univers qui vient de cette fameuse énergie noire mystérieuse.
Ça, c'est en supposant que notre façon de comprendre la gravitation est la bonne.
Tout à fait. Voilà. Donc ça part sur des pas.
On suppose qu'on comprend bien la gravitation, et pour comprendre ce qu'on observe, la dynamique des galaxies notamment, il faut imaginer d'une part qu'il y a de la matière noire, d'autre part cette fameuse énergie noire qui, si elle existe, est de loin dominante par rapport aux autres composantes.
Voilà. Alors il y a une chose intéressante dans la mission Euclide là, c'est que il y a quand vous chassez la matière noire et l'énergie noire, il n'y a pas une seule façon de la chasser. Hein, il y a des différentes manifestations de cette force. Et la grande aventure moderne de la science, je dirais, cette décennie voit se réaliser. Il n'y a pas que Euclide hein, qui court après l'énergie noire. Il y a de grandes manips américaines et autres qui sont sur le... Bien sûr, parce qu'on parle quand même du plus grand défi actuel de la physique moderne. Et donc, Euclide va amener une très grosse pierre à l'édifice parce qu'on va... étudier par deux manières différentes. Et une de ces manières, qui sont, on pourra revenir sur de quoi ça s'agit, mais pourra dissocier effectivement s'il y a un problème au niveau de la gravité.
Mais Jean-Charles Cuyande, j'ai bien dit Jean-Charles.
Ah, merci.
Avant de parler d'Euclide, il faudrait parler un peu de vous. Comment est-ce que vous est venue cette vocation d'astronome? Puisqu'à l'époque où vous avez commencé, on parlait très peu de ces questions, même pas du tout.
Oui, alors ça... Je peux peut-être revenir sur le fait que, pour moi, la science, c'était l'aventure. J'avais grandi en Bretagne et tout le reste du monde paraissait si loin. Et donc mes parents m'avaient offert ce ciel et espace. Et le grand télescope français à l'époque, c'était le télescope franco-canadien CFHT, comme on l'appelle, à Hawaï. Et donc il y avait cet article de Serge Brunier, d'ailleurs, je m'en souviens, qui avait. Et il y avait les pages centrales, c'était une belle page en couleur avec ce télescope au-dessus des nuages. Alors ça m'a... Là, il y avait vraiment un... C'est comme... Je voulais être...
C'est le télescope qui vous a fasciné plus que ce qu'il permettait de voir?
Il y avait tous les éléments liés au fait pourquoi on construisait un télescope, tout comme pourquoi on a construit Euclide aujourd'hui. Il y avait une motivation derrière. On ne construit pas juste un télescope pour... Il y a en général quelque chose qui motive fondamentalement la construction d'un gros observatoire qui est quand même un gros investissement sur le en temps et en argent. Et donc là, il y avait le côté... J'avais déjà été sensibilisé à travers Hubert Reeves et plein, tout ce qu'on a vu dans les bouquins d'école, les belles images, etc. Donc j'avais déjà une sensibilité vis-à-vis de l'astronomie, mais ça a été le déclic de voir qu'il y avait, à l'autre côté du monde, très très loin de là où j'avais grandi, il y avait un observatoire au-dessus des nuages avec une autre vie qui m'attendait.
Donc c'est Hawaï qui vous a attiré plus que l'astronomie en tant que telle? Parce que vous avez fait des études d'ingénieur, je crois,
voilà,
avant de devenir astronome.
Voilà, alors, donc j'avais cette idée. Donc je me souviens quand j'étais à Montpellier, j'étais allé dans le département d'astrophysique. Il y avait Madame Ménessier qui dirigeait ce département. J'étais allé lui dire voilà, très très poliment, je voudrais être astronome. Comment on s'y prend? Elle me dit oubliez ça, il n'y a pas de futur. Alors j'ai insisté un peu, elle me dit bon lui il en veut un peu plus. Donc elle a tâché de savoir ce qui vraiment me motivait et j'ai toujours aimé bricoler. Les Lego, toutes ces choses-là, quand j'étais gamin. Donc j'aime bien mettre les mains dans le cambouis en termes d'instrumentation, de données, traitement des données, toutes ces choses. C'est comme ça que ça s'est dérivé, en fait, mon profil. Et donc elle m'a dit, l'astronomie, c'est un domaine délicat, c'est pas, il y a une grande gamme de compétences. On trouve des gens qui sont opticiens, il y a l'astrophysique, il y a l'électronique. Enfin, c'est un des rares cas de science physique où vous avez une telle diversité de compétences qui se focalisent à créer un télescope et les observations dont on hérite. Et donc là, c'est pour ça que j'ai commencé par une formation d'ingénieur qui, effectivement, par la suite, a ouvert des portes.
Et vous avez passé 20 ans, je crois, à Hawaï ?
20 ans, oui.
Et comment c'est la vie à Hawaï ?
Comment c'est la vie à Hawaï ?
C'est que vous travaillez la nuit ?
Oui, au début, on avait beaucoup d'opérations, forcément, ce télescope qui est à 4000 mètres d'altitude. Donc sur ce site où c'est toujours à ce jour, ça reste la plus grande condensation de grands télescopes au monde. Donc c'est un endroit vraiment magique pour tous ceux qui ont été. Les souvenirs sont toujours très, très grands. Et donc c'est très beau, c'est très esthétique. Et en plus, vous faites une science fondamentale qui est belle. hein, qui est associé. Donc il y a vraiment une belle ambiance pour dans la communauté, je dirais, des gens qui y travaillent, la motivation qui se cache derrière. On ne devient pas astronome par hasard, quoi. Donc vous rencontrez des gens. Donc à partir du moment où vous vous associez à des gens qui ont les mêmes valeurs, des choses magiques peuvent se passer. Donc oui. Ça, c'était bien au niveau de la... Non, faut pas imaginer... Les gens imaginent, ah, t'es à Hawaï, donc on passe notre vie sur la plage ou les cocotiers. Non, à 4000 mètres d'altitude, c'est là où il y a la vraie motivation. C'est un climat aride, il fait froid, c'est sec, enfin c'est dur, quoi.
Et alors, qu'est-ce que ce télescope Jean-Charles Guyandre, le CFHT, comme on l'appelle, a permis de découvrir de plus important?
Alors, là, on peut repartir un peu en arrière. Donc, mon directeur de thèse était Yannick Mélier et Bernard Faure, qui m'ont vraiment mis le pied à l'étrier pour entrer dans cette belle communauté. Et eux, déjà, on peut parler ici de... On a parlé de l'énergie noire. Donc, c'est les deux équipes qui ont découvert l'énergie noire en 98 qui ont eu le prix Nobel. Mais ça... Elles ont leur découverte repose sur le fait qu'elles ont pu observer l'univers. Et ça, on repart le lien commun, c'est le prix Nobel. C'est donc deux ingénieurs du Bell Labs avaient inventé dans la fin des années 60 un détecteur, un semi-conducteur qu'on appelle le CCD, Charge Coupled Device, hein, et qui était à l'époque vu comme uniquement comme un détecteur un semi-conducteur de type mémoire de première génération. Hein, ça remonte tout ça. Et mais grâce à l'effet photoélectrique, donc en fait, le substrat de ce détecteur en fait peut être sensible à la lumière. Donc c'était l'invention du CCD qui a vraiment été une révolution. On le voit dans nos téléphones aujourd'hui. Tout le monde a ces détecteurs électroniques. Mais en particulier, si on regarde les communautés qui ont le plus bénéficié scientifiquement immédiatement de cette avancée, ça a été l'astronomie et la médecine.
Et la médecine.
La médecine, parce que vous aviez besoin de détecteurs. Soudainement, vous passiez d'une sensibilité de l'ordre de 5% à la lumière à 90 ou 95%. Donc forcément, quand vous faites de la médecine, vous voulez minimiser les radiations du patient. Donc voilà. Donc ça, c'était clairement un avantage. Puis en même temps, faut pas oublier que dans les années 70, il y avait l'avènement de tous les ordinateurs, même les portables. Donc soudainement, cette synergie entre les détecteurs électroniques et l'informatique a été totale. Donc ça, ce domaine a explosé. Ensuite, on a vu les appareils numériques, donc l'argentique a disparu, etc. Mais non, tout le monde a un appareil dans son téléphone, quoi. Donc, pour revenir sur le retour, donc les astronomes se sont intéressés à cet aspect d'utilisation des détecteurs de nouvelle génération, et ça a été une vraie révolution.
Et comment est-ce qu'ils ont pu découvrir ou faire l'hypothèse de l'existence de l'énergie noire? Quel a été le phénomène qui a permis d'avoir cette idée? Et vous-même, quand est-ce que vous avez entendu l'expression énergie noire ou énergie sombre, on dit les deux, pour la première fois?
Alors, énergie sombre, moi, c'est un anglicisme. On va traduire des Américains, ouais. Mais on va rester en France.
On va rester avec le noir.
Ouais. Et donc, là, l'idée, c'était que... Je vais d'abord fermer la parenthèse sur le CFHT. C'est que, donc... Ces premiers détecteurs, parce qu'ils sont vraiment majeurs dans la découverte de l'énergie sombre. Hein. Donc on va repartir un peu en arrière, parce qu'on va parler de matière noire pour commencer. Ouais. Et donc l'équipe de Bernard Faure, donc il avait Yannick Mélier comme étudiant à l'époque, et donc ils disent, on a ces nouveaux détecteurs et on a un télescope tout nouveau, parce que le CFHT il a vu sa première lumière en 79, donc dans les débuts des années 80. Ils disent, on va regardez, et où qu'on regarde, on va revenir là-dessus sur Euclide, parce que maintenant je me trouve dans la position où on a Euclide, on a un télescope qui est tellement révolutionnaire que où qu'on regarde, on voit des choses nouvelles.
Comme si on avait une nouvelle fenêtre sur l'univers.
Exactement, et ça c'était le cas au début des années 80 pour ce télescope CFHT. Donc ils vont à Hawaï, ils mettent leur appareil, leur caméra CCD particulière sur le télescope, et ils observent des amas de galaxies lointains, parce que ça avait la bonne taille, etc. Il n'y avait pas beaucoup de pixels, hein, c'était des CC qui faisaient 600 par 400. C'est minuscule, hein, de nos jours, on a des mégapixels.
Si vous le dites.
Hein. Et donc, lors d'une de ces observations, d'un amas qu'on appelle Abel 370, ils ont découvert une structure très étrange, qui est un arc gravitationnel. C'était vraiment la première découverte d'un arc gravitationnel géant. Et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est l'effet de la gravité, relativité générale.
La courbure de l'espace.
Et donc ça a vraiment lancé... Il n'y a pas un institut, je pense, au monde aujourd'hui qui n'a pas une division où les gens font de l'optique gravitationnelle. C'était vraiment la naissance...
Et regarde comment l'image des galaxies est déformée le long du trajet par la courbure de l'espace.
Voilà. Et ça, c'était un cas sévère... Mais comme cette nouvelle fenêtre qu'on ouvrait était, le détecteur n'était pas parfait, le télescope n'était pas encore optimisé, mais c'était tellement, c'est, quand on regarde aujourd'hui, si l'audience veut aller chercher les images qui ont été faites par Hubble, forcément, c'est mieux aujourd'hui, mais on voit des choses qu'on ne voit
pas. Mais vous y étiez, vous-même?
Pardon?
Vous y étiez vous-même?
Alors, j'étais encore à l'école, moi, en 83. Donc, cette chose-là est découverte, ça a lancé. Donc ensuite, les gens se sont dit, ah, bah, si on voit des arcs gravitationnels géants, c'est-à-dire que si on prend un gros amas de galaxies très massif, on va avoir des effets à plus grande distance. Et donc, c'est ainsi que naît le régime faible de l'optique gravitationnelle. Ensuite, les gens se disent, ah oui, mais on a des grandes structures dans l'univers. Hein, toute cette toile cosmique dont on sait que l'univers est composé, puisqu'on l'observe, ça on le voit. Et d'où est née cette fameuse, alors je sais plus, peut-être vous pouvez me dire le terme français, mais le cosmic shear, c'est le cisaillement gravitationnel.
Ouais, je crois que c'est le cisaillement gravitationnel, voilà. C'est la déformation de l'espace par la gravité.
Voilà, c'est essentiellement, si on prend, donc on voit, on repart dans le temps, si on repart en arrière, on a des galaxies très lointaines dont la lumière prend du temps pour arriver jusqu'à nous. Mais dans leur trajet, elles ne vont pas en ligne droite. Leur trajet va légèrement être affecté par la densité de matière avec laquelle elles vont s'approcher, etc. Donc c'est ce fameux toile cosmique qui crée une signature, et c'est cette signature particulière que Euclide va aller chasser. Donc vous voyez le lien direct entre ces
télescopes. Mais est-ce que ça veut dire que Euclide, dont on va parler maintenant, est un enfant du CFHT? Et vous parlez aussi d'un autre télescope qui s'appelle MegaCam.
Alors MegaCam est l'instrument qu'on a mis sur...
Voilà.
Alors Euclide, c'est le télescope. Et à bord du télescope, on a deux instruments. Et c'est des caméras digitales géantes, comme jamais il y en a eu dans l'espace pour faire des images. C'est pour ça que quand vous allez voir les images sur le site de l'ESA, on en a relâché en novembre. Et là, il y a une nouvelle collection qui arrive le 23 mai. Vous verrez la résolution absolument spectaculaire. Donc sur Euclide, on a une caméra optique, donc qui observe dans les longueurs d'onde sensibles à l'œil humain, de 620 millions de pixels, ce qui est considérable. Et dans l'infrarouge, pour des raisons techniques, financières, etc., on n'a que 64 millions de pixels. Mais il n'y a jamais eu ce type d'instrument dans l'espace avec le type de qualité optique.
Vous voulez dire que dans l'infrarouge, on fait moins bien que dans le visible, mais on fait quand même mieux que d'habitude.
Et oui, la raison, c'est que pourquoi on fait de l'astronomie spatiale?
Mais je vous pose la question.
Eh bien, très bonne question. Donc,
vous voulez dire dans l'espace plutôt que sur Terre?
Voilà. Et parce que tout coûte tellement plus cher dans l'espace. Hein. Il faut des critères de qualité du matériel qu'on va construire sur la longévité. L'environnement est beaucoup plus difficile avec tout le rayonnement cosmique qu'on a de la galaxie, du Soleil, etc. Donc, l'investissement est colossal. Il faut le lancer aussi. Après, il y a l'opération. Donc, il n'y a aucune comparaison. Je serais même pas capable de donner un ordre de grandeur entre le prix de l'astronomie au sol.
Mais ça veut dire qu'on ne fait dans l'espace que ce qu'on ne peut pas faire sur Terre.
Vous ne pouviez pas mieux le dire. C'est exactement ça. Et quand on soumet un projet à l'Agence spatiale européenne, par exemple, dans notre cas, il scrute qu'est-ce qui peut être fait s'il y a quelconque moyen de le faire depuis le sol, et on guillotine. Donc, Euclide, il y a différentes composantes qui ne peuvent être faits que depuis l'espace. Et notamment, une de ces composantes, c'est de mesurer la lumière, la couleur des galaxies, ces fameuses galaxies dont vous parliez, à petite distance, mais dans l'infrarouge. Parce qu'elles ont une signature qui est vraiment unique, dont on a besoin.
Mais avant, je veux que vous me racontiez l'aventure de la construction du projet. Et que vous me disiez, Jean-Charles Cuyandre, quand est-ce que vous avez entendu parler pour la première fois d'énergie noire? Alors, moi, je crois que c'est une histoire de supernova qu'on avait observée.
Tout à fait.
Qui avait un décalage spectral plus grand que ce qui était attendu. Voilà. Et on en a dit que l'expansion de l'univers était en phase d'accélération.
Tout à fait. Donc, ça, c'était dans les années 90. Donc, j'ai eu la chance et l'honneur de connaître des gens de l'équipe, d'une des deux équipes. Là, donc, c'est John Tonry qui travaille à l'Université d'Hawaï, l'Institut pour l'astronomie sur l'île d'Oahu. Et donc, avec son collègue Jerry Lupino, ils avaient construit cette caméra qu'on appelait la UH-8K, et qui était une caméra de très grand format, la plus grande de son type, hein, ce qu'on avait mis sur le CFHT, un précurseur de MegaCam. On va pouvoir reparler de MegaCam dans une seconde. Mais donc moi, mon sujet de thèse, c'était la construction d'une caméra MOSIC de 16 millions de pixels. Donc entre 92 et 94 à peu près. Et donc on a mis ça sur notre télescope de 4 mètres, le CFHT, et on a fait des belles choses, mais très vite, c'est comme quand comment on dit ça en français, if you build it, they will come.
Si on construit,
les gens vont venir. Quoi. Donc, clairement, on avait touché une corde sensible sur ce que beaucoup d'astronomes et d'astrophysiciens.
C'est-à-dire quand l'instrument est réalisé, il attire plus de monde que quand il n'est pas encore.
Parce qu'il y avait des capacités vraiment comme aucune autre. Donc, on était motivés par l'étude de la matière noire, donc tout ce qui est cisaillement gravitationnel. Mais très vite, des gens qui faisaient des études du système solaire, des satellites de Jupiter, ils disent, ah oui, mais vous avez un grand champ, vous avez beaucoup de résolution, donc on voit des nouvelles choses. C'est pour ça que Euclide va également être une révolution, parce qu'on a une capacité d'observer l'univers dans toutes ses gammes, qui est vraiment unique. Et donc, à l'époque, oui.
Continuez.
D'accord. Pourquoi j'ai entendu parler la première fois de l'énergie noire, c'est donc il y avait ces équipes. Alors ça c'était très très secret forcément, parce que c'est arrivé plus tard, mais il s'avère que dans les je crois que c'est une douzaine de supernovas qui ont été utilisées pour quantifier le fait qu'effectivement il y a une accélération de l'expansion de l'univers.
Dans mon souvenir, c'est ça. C'est-à-dire que la première fois que personnellement j'en ai entendu parler, c'était à propos d'une dizaine de supernovas.
Une dizaine, ouais. Voilà. Mais ça suffisait pour montrer que ce fameux diagramme de Hubble qui montre la distance d'une galaxie en fonction de son décalage spectral, c'était plus une ligne droite, c'était plus linéaire comme relation. Et donc, il s'avère qu'il y a effectivement quelques supernovas qui ont été détectées par le CFA. Donc j'avais eu un peu ce vent-là de... Et donc, ensuite arrive cette énorme stupéfaction, alors que tout le monde s'attendait à ce qu'on ait, ou que l'univers s'aplatisse et donc il ne se passe rien, ou bien que la gravité reprenne et qu'on ait
une recontraction.
Qu'au contraire, c'est un peu comme la similarité que John Tonridge avait fait, c'est qu'on jette un ballon en l'air, on s'attendait à ce qu'il retombe, mais en fait, non seulement il reste en l'air, mais plus il monte et plus il s'éloigne. Quoi. Et donc c'était complètement contre-intuitif.
Ouais, ça ressemble à une antigravité.
Ouais, exactement. Et donc il y avait une espèce d'énergie du vide, et plus il y a de vide, plus il y a d'énergie. D'accord. Et donc là ils se disent, donc l'accueil par la communauté, ça a été un peu divisé, mais très vite, le fait c'est qu'il y avait eu deux équipes en compétition qui ont mené cette étude, et sachant qu'elle souhaitait presque avoir tort en espérant que... Donc ça a beaucoup aidé à établir le fait qu'on avait vraiment une réelle découverte.
Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont dit d'emblée que peut-être c'était la preuve que notre façon de revoir, de comprendre la gravitation devait être réexaminée?
Alors ça a été inclus comme une des possibilités. C'est pour ça que quand on regarde les missions comme Euclide, ça fait partie des choses qu'on doit garder à l'esprit. Sachant que quand même la gravité, la relativité générale, tous ces aspects, vous le savez tout aussi bien que moi, Étienne, on passe notre vie, nous scientifiques, à confronter des résultats établis, ce qu'on appelle des théories, avec des observations et des nouvelles observations. On essaie de prouver que celle-ci est fausse, etc. Et en fait,
et pour l'instant, ça se passe bien.
Ça se passe toujours bien, ce qui est absolument remarquable. Quoi.
Alors, ce projet Euclide, Jean-Charles Cuillon, il commence quand? Quand est-ce qu'on commence à concevoir un nouveau télescope qui continuerait en mieux les travaux déjà effectués au CFHT.
Voilà. Alors là, pour revenir en arrière, donc en 98, donc découverte de l'énergie sombre. Une fois que les communautés internationales ont dit oui, c'est réel. Donc, comme je disais tout à l'heure, le plus grand défi de la physique moderne, parce qu'on parle quand même d'une énorme. Soudainement, on passe de combien d'une grande partie, parce qu'il y a la matière noire qu'on n'arrive pas à expliquer en termes de nature. Donc c'était embarrassant déjà. Déjà, on passe entre la matière noire et l'énergie noire, on arrive quasiment à 95% de l'univers qu'on ne comprend pas.
Vous voulez dire qu'il y a des découvertes qui augmentent notre ignorance?
Exactement.
Et donc, il faudrait que ça s'arrête un jour quand même.
Voilà. Et donc c'était évident que les moyens devaient être mis pour répondre à cette question. Donc il y a une table de sages, je ne sais pas exactement quel comité s'est mis autour d'une table. Ils ont dit, voilà, il nous faut un plan pour mieux comprendre cette énergie. On ne va peut-être pas pouvoir expliciter sa nature pour l'instant, mais on va au moins mieux comprendre son comportement. Et donc là, si on repart en arrière, là avec une mission comme Euclide, ou le Rubin qui commence bientôt, ou DESY, il y a toute une série de grandes expérimentations scientifiques qui se déroulent à travers le monde. Le plan actuel, on est au niveau 4, voilà, numéro 4, qui est de comprendre son évolution à travers le temps. C'est-à-dire qu'on est en train d'analyser le comportement de cette fameuse énergie du vide.
Est-ce qu'elle est constante ou pas?
Elle est constante ou pas, c'est la grande question. Et donc si on revient un peu en arrière, la décennie passée, ça a été des grands relevés. Alors pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire un grand relevé? Ça veut dire que de nos jours, c'est très rare de faire de la science avec une galaxie. Et quand vous faites, essentiellement, maintenant, on est passé dans une phase de cosmologie dite de précision. Et donc, les échantillons sur lesquels doivent être basés les résultats, ça, c'est plus 100 galaxies, c'est plus 10 000 galaxies, c'est des milliards. Ou des millions en fonction de la mesure que vous cherchez à mener. Et donc, pour Euclide, par exemple, au terme des 6 ans de la mission, donc on a juste commencé là en février, on a commencé à observer on va observer après un tiers du ciel, et à travers ces observations de un tiers du ciel, on pourra en parler de qu'est-ce que c'est ce fameux tiers du ciel, on va environ obtenir 2 milliards de galaxies. Et donc ça c'est nécessaire pour faire ce qu'on appelle réduire les mesures, les erreurs sur les mesures de ces fameux paramètres cosmologiques.
Alors, il y a combien de personnes qui ont travaillé à ce projet, de laboratoire, pendant combien d'années? Qu'est-ce qui a été le plus difficile? Quels sont les problèmes techniques qui vous paraissaient insolubles que vous avez fini par régler?
Alors, là, il y avait une chose qui était importante. Donc, c'est quand on revient à ces tables de sage dans les 90, qui dit, voilà, on va faire 4 niveaux. Niveau 1, on va faire ça. Donc, le niveau 1, c'était raffiner un peu ce qu'ils avaient fait au tout début. Niveau 2, c'était un relevé plus avancé avec des supernovas. Et donc, ça, c'est ce qu'on a fait, nous, avec le Megacam sur le CFHT. Pendant 6 ans, on a observé des champs très, très, très rigoureusement à travers le ciel. Et on a une collection de l'ordre de 500 supernovas. Donc, ça, on est passé de quelques douzaines à 500. Et en associant ces données de notre télescope franco-canadien là, avec Hubble, et puis un autre télescope, on a eu un diagramme de Hubble très 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 raffiné. Mais c'était pas suffisant, c'était une mesure qui confirmait bien, etc. Mais ça répondait pas à certaines questions. Donc c'est là que les gens se sont dit, il nous faut d'autres sondes. Une autre sonde, c'est-à-dire que c'est une autre signature. Et c'est là que une des plus puissantes qui est connue, c'est cette fameuse optique gravitationnelle. Donc les gens très vite ont cogité en se disant, voilà, dans ce fameux plan débattu à la fin des années 90, il y avait le fait que un télescope spatial, donc qui se défait des effets de l'atmosphère. Le problème, c'est que quand on regarde l'univers depuis la Terre à travers donc cette atmosphère, c'est comme regarder le fond d'une piscine. C'est-à-dire, si c'est flou, il y a un effet de floutage. Si vous voulez faire des mesures extrêmement fines de la mesure de forme des galaxies, puisque c'est ce dont on parle, hein, c'est 2 milliards de galaxies, il va falloir vraiment mesurer très très finement leur forme, eh bien l'atmosphère est un obstacle majeur. Donc voilà, ça c'était...
Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire en dehors de... Enfin, il faut être dans l'espace.
Il y a des moyens de mitiger, machin, mais néanmoins, il n'y a rien de tel pour cette science d'optique gravitationnelle de le faire depuis l'espace. C'est absolument crucial. Et c'est ça, ça a été vraiment ce qui a défini le succès de cette mission. Donc il y a une autre sonde qui s'appelle les BAO. Et donc les BAO, c'est les oscillations acoustiques baryoniques. Et donc c'est une signature qu'on voit de l'énergie sombre dans la distribution des galaxies à travers l'univers. D'accord. Donc c'est quand on regarde, on a parlé de la toile cosmique tout à l'heure. Et quand on regarde ces toiles cosmiques, ça ressemble à un peu une grosse éponge. Je pense Huberry, c'était un des premiers qui m'avait vraiment bien fait comprendre à quoi ça pouvait ressembler.
Une éponge avec des trous.
Avec des trous, voilà. Et donc sur les parois de cette éponge, faut imaginer, c'est comme ça l'univers. Il y a des espèces de parois, il y a des galaxies qui se partagent là-dessus. Donc si vous faites la mesure, on va prendre notre éponge, d'accord? Et donc si on mesure la distance moyenne entre les parois dans ces bulles d'éponge, on trouve une taille standard, d'accord, c'est la manière dont l'éponge a été faite. Bon, c'est pareil l'univers, en fait. On a noté qu'il y avait une taille standard de distance entre les galaxies. Et ça a été directement relié à l'énergie sombre, parce que si vous avez une bulle standard au début de l'univers et que vous avez cette expansion en accélération, cette taille standard, elle va évoluer linéairement.
Mais ça montre Jean-Charles Cuyande, je ne sais pas pourquoi je dis Jean-Marc, Jean-Charles Cuyande, ça montre à quel point les connaissances évoluent, puisque dans les années 1920, on ne savait pas qu'il y a d'autres galaxies que la nôtre. On voyait des nébuleuses, mais on pensait qu'elles étaient dans la Voie lactée. Et vous parlez des galaxies comme d'objets parfaitement banals. Vous en connaissez des milliards, dans chacune il y a des milliards d'étoiles, mais pour vous c'est un point.
Ouais, c'est un point statistique. C'est triste, hein. Mais... non, mais le fait est que les moyens d'observation font que... Quand je regarde, par exemple, ces images Euclide, donc on a construit un télescope comme nul autre avant. On va revenir sur la construction de ce télescope. Quand les gens disent, bon, il faut qu'on fasse un télescope qui sache faire ça, ça peut pas être Hubble, ça peut pas être le Webb télescope, qui sont quand même des grandes références.
Parce que si c'est pas ils sont voisins. Le James Webb est tout près d'Euclide.
Effectivement, avec Gaïa et d'autres grandes missions.
Des voisins
à L2. Moi, c'est un gros volume. Et donc, quand vous regardez des télescopes de ce type, typiquement, quand vous avez de tels investissements à prendre, vous allez concevoir un télescope spécifiquement fait pour ce pourquoi il doit répondre scientifiquement. Alors, tout le monde a oublié que le Hubble il avait été fait pour mesurer les céphéides. C'était pour la fameuse théorème de Hubble à l'époque. C'est une chandelle standard.
Mais il a fait bien d'autres choses.
Et on a oublié ce qu'on a fait initialement. Donc, qui sait ? On a fait Euclide pour l'énergie sombre. Mais...
Alors, vous deviez le lancer en mars 2023 par une fusée Soyouz russe. Mais depuis Kourou, je crois, et il y a eu la guerre en Ukraine, donc vous avez dû changer votre fusil d'épaule, si j'ose dire.
Oui, on a
Est-ce que c'est facile pour vous, qui avez conçu le télescope lui-même, de vous adapter à un changement de lanceur?
On a frémi. Donc il y a quand même près de 2000 scientifiques impliqués dans le consortium Euclide. Donc c'est une grande collection de laboratoires, il y en a presque 200 maintenant à travers l'Europe et les États-Unis, Canada aussi, Japon. Donc il y a beaucoup de gens qui sont associés, c'est vraiment une aventure internationale. Et effectivement, on était censé lancer depuis Kourou sur une Soyouz. Et donc tout a changé pour des raisons géopolitiques évidentes. Et là, il y a eu un énorme effort du côté de l'Agence spatiale européenne pour trouver une alternative aussi rapide. Parce que le problème, c'est qu'il y avait une claire conscience que le sujet scientifique, et il est chaud là maintenant, c'est maintenant qu'il faut y répondre. Il ne faut pas attendre, parce que la compétition, elle existe. On est complémentaire avec les autres grandes expérimentations, principalement américaines. Mais là, il ne fallait pas rater le coche.
Et donc, alors pourquoi ne pas avoir choisi Ariane ?
Parce qu'elle ne marche pas encore. Et Ariane 6.
C'est une bonne raison.
Voilà. Et essentiellement, on a regardé. Ça a été la première fusée, effectivement, qu'on a étudiée. Mais il était clair que le calendrier allait glisser. Effectivement, la réalité nous a donné raison.
Donc, Euclide a été lancé finalement par une fusée Falcon de SpaceX.
Exactement.
Dans quel état on est quand, comme vous, on a passé des années à travailler un tel projet? Comment on est au moment où la fusée s'apprête à décoller? Est-ce qu'on est content, tendu, inquiet?
Alors, je suis scientifique, moi je fais des statistiques. Donc, je suis allé regarder les statistiques des lancements des Falcon 9 de SpaceX, et c'était impressionnant. Donc, il y avait des gens qui frémissaient dans la collaboration, même si moi j'ai passé 10 ans, comme beaucoup d'autres de ma carrière, à contribuer à cette mission, j'étais très confiant. Moi,
Oui, mais il n'y a pas que le lancement, il faut aussi que tout se déploie dans l'espace comme prévu.
Alors...
Il y a 3 semaines de voyage.
Il y a ces 3 semaines, ouais.
Pour atteindre le fameux point de Lagrange L2.
Voilà.
Alors, c'est quoi ce point de Lagrange?
Le point de Lagrange, c'est ce qu'on appelle un point de stabilité gravitationnelle. Il est au-delà de la Terre. Si vous prenez un alignement Soleil-Terre, vous prenez au-delà. Et c'est pas un point de stabilité absolue. C'est-à-dire que vous positionnez votre télescope à cet endroit-là. L'avantage, c'est qu'il va suivre la Terre.
Il
tourne avec. Donc, on est capable de communiquer à tout moment avec le télescope. Et je vous ai dit, les caméras mosaïques à bord de Euclide sont énormes. C'est 620 mégapixels, principalement pour le canal optique, et 64 mégapixels. Et on prend des images tous les quelques minutes. Donc, c'est beaucoup.
En permanence.
Donc, c'est quand même un gros flot de données. Donc, j'ai eu l'honneur, la chance et l'opportunité de voir Euclide de mes propres yeux avec d'autres collègues. À Thalès, à Cannes, là.
Ça ressemble à quoi? Quand on est devant, un gros instrument, plusieurs mètres.
Et 5 mètres de hauteur, blanc et or, c'est magnifique.
Ça brille.
Ah, c'était magnifique. Et donc, là, bien sûr, il est prêt à ce moment-là à être lancé, donc on ne peut pas voir à l'intérieur, mais il y avait ce côté magique de voir comment il est conçu.
Parce donc, quand j'étais jeune, on m'a expliqué que le point de Lagrange L2 est instable.
Il est instable.
Et est-ce que ça complique votre vie?
Alors, c'est pour ça qu'on a du carburant à bord. On a ces petits éléments qui permettent de remettre régulièrement le télescope sur son orbite nominale. Et donc, il y a, par exemple, là, on a commencé en février la mission complète d'Euclide qui va couvrir un tiers du ciel. Je voudrais vraiment prendre le temps d'expliquer ce qu'est ce tiers du ciel. Mais il y a des phases d'opération, une fois par mois, de correction de trajectoire. Donc, on arrête les opérations scientifiques. Le service, au niveau de l'Agence spatiale européenne, les gens qui contrôlent tout ce qui est orbite, etc., positionnement du télescope, prennent la main. Et eux, ils se prennent en charge, ils repositionnent. Voilà. Donc, et ça va conditionner la durée de vie du télescope. C'est-à-dire que non seulement il faut qu'il puisse pointer à tout endroit du ciel, d'accord ? Alors, il y a différentes contraintes, hein, je passe les détails ici, mais il y a cet équilibre entre le garder à L2 et pointer...
Alors, quand est-ce que vous avez su, Jean-Charles Cuyandre, que tout marchait bien, notamment les appareils dont vous aviez la responsabilité ? Et comment on vit ces 3 semaines de voyage avant qu'on ait la réponse à la question de savoir si ça marche ?
Alors, effectivement, là, il y a eu des périodes...
De stress,
ouais, parce que essentiellement, donc tout est éteint quand vous lancez, et ensuite on a lancé de Floride, donc on est sur Falcon 9. Hein, le lancement était magnifique. Moi, je suis pas allé, je voulais pas aller là-bas juste pour quelque chose, parce qu'elle serait loin la fusée, donc j'ai choisi d'aller au CNES à Toulouse avec les collègues, et on avait une grande salle qui était magnifique. Et il s'avère que SpaceX, je crois que c'est le premier lancement, ils ont mis des caméras embarquées à haute définition. Je ne sais pas si vous aviez vu, vous avez noté ça, mais non, les caméras embarquées de SpaceX sont en haute définition. Et soudainement, on avait cet écran qui faisait, je ne sais pas moi, 15-20 mètres de base. Et on était dans l'espace. On était avec Euclide, là, c'était hallucinant. Et donc, il y a mon collègue Pierre Cazeneuve, qui connaît beaucoup mieux que moi tous les aspects de trajectoire, etc. Donc, il m'expliquait un peu l'ABC. Moi, je suis qu'un astronome, hein, je ne connais pas comment ça fonctionne. Et donc, il y avait vraiment là où ça peut aller mal. D'accord. Et puis là, on va lancer ça. Là, il y avait ces vraiment moments vraiment, vraiment très, très critiques sur à quel moment on va le lancer vers L2. Alors, c'est le coup de pouce qui fait que on va voir. Donc ça, c'était critique. Et donc, je me souviens clairement, on était en live sur un channel YouTube, je crois, à l'époque, et on s'est tous les deux complètement figés quand on est arrivé à ce fameux moment de la séparation entre Euclide. Donc c'est la première fois où ces fameuses caméras haute définition de SpaceX montrer le télescope
qui
s'en va dans l'obscurité, là, et hop, c'est la dernière fois qu'on le verra. Et maintenant, on communique avec lui constamment, mais c'était la dernière fois qu'on le voyait. Ça, c'était une belle émotion, ça.
Est-ce que vous pensez à lui de temps en temps ?
Euclide ?
Oui.
Mais j'ai pas le choix, tout le temps.
Mais alors, qu'est-ce qui vous excite le plus dans les images que vous recevez, là ? Je crois qu'il y en a certaines qui vont être publiées dans quelques jours. Mais déjà, je sais plus, je crois que c'était en juillet dernier, les premières images qui sont parvenues, qui montraient que tous les instruments fonctionnaient bien. Voilà. Notamment une image de l'amas de Persée.
Voilà. Alors, la manière dont c'est passé, et tout à l'honneur de l'Agence spatiale européenne d'être très ouverte sur même les problèmes. Donc, on a, après le lancement, donc pendant les 3 semaines, vous mettez en fonction, vous mettez en marche l'ensemble de l'électronique. Donc les panneaux solaires collectent de l'énergie, vous pouvez faire chauffer l'ensemble, etc. Donc tout se met en marche. Et là, on voit si effectivement le système répond de manière nominale ou pas. Et on commence à prendre des images. Et là, on a eu une grosse, grosse, grosse frayeur qui était d'ailleurs présentée sur les pages internet de l'ESA. Donc c'est très, très ouvert. Il y avait une fuite de lumière. Le télescope est absolument optimisé pour observer l'univers lointain avec des objets qui sont d'une faiblesse extraordinaire, hein, des galaxies à des milliards d'années. On était aveuglé par le soleil. Alors que pourtant,
c'est choisi pour ne pas l'être.
Pour ne pas l'être. Parce qu'on a ce grand panneau solaire qui nous protège. Il s'avère qu'il y avait un de ces petits éléments qui contrôle la position du télescope, qui a travaillé juste un peu de soleil qui rebondissait à l'intérieur du panneau solaire et qui rentrait dans la cavité du télescope. Panique. Si on n'arrivait pas à résoudre ce problème, la mission était compromise. Donc là, vous mettez tout le monde sur le pont. On rappelle l'industrie, on essaie de comprendre d'où ça vient. Et au final, il s'agit simplement de légèrement décaler sur son axe le télescope pour masquer cette petite pièce métallique qui accrochait la lumière du soleil. Et ça a résolu le problème et tout va bien.
Et il faut combien de temps pour comprendre que ce problème est soluble ?
Je dirais que là, vous avez vraiment du monde sur le pont. Donc, pense qu'entre le début et la fin, il a dû se passer un mois pour avoir une solution. Et donc ça
un mois d'intranquillité.
Voilà, on était très inquiets. Et donc ensuite est arrivé on a fait une annonce de première lumière, on a vu les premières images qui démontraient que les deux instruments fonctionnaient, c'était magnifique. Mais ensuite, il y avait vraiment le souhait de montrer au monde que Euclid fonctionne. Donc là, moi, j'ai joué un rôle clé dans la production des belles images qui ont été publiées en novembre. Donc
on est parti 7 novembre 2023.
Voilà. Et donc le 7 novembre 2023, le directeur général de l'ESA a présenté un parterre de ministres, je crois que c'était à Séville, la toute première image que vous tenez en main là, oui, de l'amas de Persée. Voilà. Et la même journée, moi j'étais à Darmstadt au centre d'opération de l'ESA et avec l'ensemble des collègues de l'ESA, on a présenté les autres images, il y en avait 4 autres. Et donc ces images ont fait le tour du monde, on était absolument ravis, quoi. Le taux d'exposition était de gens qui ont vu ça. Je crois que le nombre final c'est un tiers d'humanité.
Moi j'ai vu ça, un humain sur 3 a vu ces photos.
Voilà, là, ça rend humble ça de voir qu'on a de travail. Ça.
Mais est-ce que ces images qui montraient que les appareils fonctionnaient bien vous ont aussi appris des choses scientifiquement?
Tout à fait. Voilà, donc ça c'était un peu l'idée derrière ce programme. Donc on parle d'énergie noire, on ne va pas perdre le fil de notre discussion là, mais l'énergie noire, c'est un sujet très compliqué avec une mission qui a pris 10 ans, plus de 10 ans à être construite, etc. Donc ça ne va pas être résolu en une observation. D'accord, c'est ce qui va nous prendre 6 ans. Ça va nous prendre 6 ans d'observation avec ce fameux.
Que vous appelez votre manie de la statistique.
Voilà. Il nous faut observer un tiers du ciel pour ça, pour atteindre ces 2 milliards de galaxies. Néanmoins, l'ESA avait le souhait de démontrer que le télescope se comporte bien et a le potentiel de découverte qu'on attend de lui. Et donc, avant le lancement, il y a eu un appel à idées dans le cadre de la grande collaboration, le consortium Euclid, de présenter des idées sur des programmes scientifiques simples, d'accord ? Et donc moi j'ai soumis un plan sur l'amas de Persée, justement c'est mon projet là particulier avec une équipe, on est 40-50 scientifiques et il y en a 6 autres qui ont été sélectionnés et chacun de ces programmes est là pour illustrer une capacité de Euclid à mener de la science originale. Et ça c'était vraiment une très bonne idée parce que ça va être publié le 23 mai là qui arrive. On a une dizaine d'articles propres à la science nouvelle d'Euclid. C'est pas des articles, on va dire, révolutionnaires dans le sens où on répond pas des défis scientifiques comme celui de l'énergie noire, mais c'est très beau.
Est-ce que c'est des articles qui disent déjà des choses sur l'énergie noire, notamment sur le fait qu'elle a ou n'a pas varié au cours du temps?
Pas encore, justement. Pour ça, il nous faudra plus d'informations. Par contre, on voit des signatures dans des manières dont on perçoit l'univers qui sont nouvelles. Donc ça, par exemple, si on me dit voilà pourquoi avez-vous rejoint la mission Euclid, j'ai pas rejoint pour l'énergie noire. Bah, personnellement, moi j'ai rejoint parce que je sais que c'est un télescope qui est tellement unique de par sa capacité d'observer l'univers. Personne ne l'a observé comme ça avant entre le champ de vue. Il faut savoir que chaque image que Euclid prend, c'est 2 fois la taille de la pleine lune. D'accord, c'est grand, c'est énorme, c'est tous ces nombreux pixels. Et donc c'est la capacité du télescope à faire des nouvelles découvertes qui me...
Mais Jean-Charles Cuyandre, vous dites que Euclid peut regarder un tiers du ciel. Qu'est-ce qui l'empêche de voir les 2 autres tiers?
Ça c'est intéressant comme question. C'était nous on est dans un système solaire.
Mais on n'est pas n'importe où.
Mais on n'est pas n'importe où, mais on est dans une galaxie aussi. Donc quand vous regardez la Terre, d'accord, tourne autour du Soleil, on a un satellite, la Lune. Mais quand vous regardez ce qui tourne autour aussi avec nous, on a cette fameuse ce qu'on appelle la lumière zodiacale. C'est un grand nuage de poussière dans lequel on nage, qui est brillant. Et donc même quand vous êtes dans l'espace, le ciel n'est pas noir. Il n'est pas noir, et donc il y a une brillance. Et donc quand vous regardez pile dans, c'est comme une espèce de galette aplatite, hein, assez épaisse, hein, dans laquelle se déplace la Terre. Et il faut éviter ça, parce que ça...
Donc il y a des directions dans lesquelles l'espace est pollué.
Exactement, il y a une pollution lumineuse à L2. Et donc il faut regarder principalement au-dessus de ce plan. Donc en général on prend à 30 degrés au-dessus. Donc ça vous limite déjà une partie du ciel. Ensuite, vous voyez, on vit dans une très très belle galaxie qui s'appelle la Voie lactée. Et si vous êtes sur un beau site noir, vous voyez que cette grande galaxies qui tranchent le ciel en deux. Et ça, ça va vous illimiter également une grande, grande partie du ciel. Donc quand vous mettez en combinaison ces deux pollutions, entre guillemets, eh ben, il vous reste un tiers du ciel. Et voilà, c'est pour ça. Et donc, ce tiers du ciel, c'est celui qui vous permet de voir l'univers au-delà, parce que vous n'êtes pas bloqué par la lumière d'avant-plan.
Alors, quelles sont les galaxies les plus lointaines que vous pouvez voir? Quel âge ont-elles? À quel moment de la jeunesse de l'univers vous êtes capable de les attraper, de recueillir leur lumière?
Voilà, c'est assez fascinant pour Euclide, parce qu'on a ce canal infrarouge. Donc, comme je disais, on voit dans les lumières optiques et infrarouges. Et donc, quand vous êtes dans l'infrarouge...
Infrarouge, ça veut dire qu'on voit des galaxies qui s'échappent très rapidement de nous.
Voilà, un décalage spectral très avancé, leur lumière est très, très décalée. Et vous pouvez jouer le petit jeu de regarder, parce qu'on a plusieurs couleurs. On observe trois couleurs dans l'infrarouge et une dans l'optique. Et vous êtes capable de voir si une galaxie est présente dans une couleur mais pas dans l'autre, ça vous donne une indication de son décalage spectral. Et donc il y a toute une communauté dans le consortium Euclide là, qui s'intéresse à comment on va aller chercher les galaxies les plus lointaines. Donc là on parle de quasars qui seront à 8, 10, un redshift de 8, 10. Et donc là on est très peu de temps après le Big Bang.
Et comment est-ce que vous, astronome, vous lisez les images par rapport à quelqu'un qui se contente de les trouver belles? Comment est-ce que vous lisez les couleurs? Comment est-ce qu'elles vous indiquent tel ou tel type de phénomène qui se déroule dans les galaxies? Parce qu'il y a aussi des télescopes, par exemple ceux qui prennent de la lumière infrarouge, qui retravaillent les couleurs, qui les mettent dans des couleurs visibles pour qu'on trouve ça beau, mais ça n'indique pas les phénomènes qui sont derrière l'émission de ces couleurs.
Alors, là, effectivement, il y a cet aspect, il faut faire attention quand on prend des couleurs à laquelle l'œil humain n'est pas sensible. Il faut en faire un rendu qui passe sur nos écrans, qui eux sont en rouge, vert et bleu. Hein, les RGB standards de tout système de reproduction d'images auxquels on est tous sensibilisés à travers les télés, nos écrans, etc. Donc forcément, il va falloir interpréter le signal pour le passer dans ce régime. Dans toutes les images que j'ai produites pour l'Agence spatiale européenne des images Euclide, c'est clair que je suis extrêmement attentif à ce que la réalité physique puisse être comprise et expliquée, puisque si je me retrouve sur un débat public, je veux être capable de montrer l'image. Je dis voilà, l'étoile est bleue parce que c'est une étoile massive qui est plutôt chaude. Le ciel, là, dans cette image de la tête de cheval d'Euclide, il est bleu. Ah oui, parce que ça, c'est du gaz ionisé. Mais on l'observe dans telle bande, donc là, il est décalé dans le canal bleu. Il y a ce genre de choses. Après, la couleur des poussières, la réflexion. Donc, tout c'est vraiment critique, à mon sens, que de voir que les couleurs qu'on voit dans les images sont réelles physiquement. Elles ne sont pas réelles dans le sens où l'humain ne le verrait pas de tel, mais elles sont réelles physiquement.
Et alors, quand vous découvrez une nouvelle image recueillie par Euclide, qu'est-ce qui attire votre œil en premier? En quoi votre qualité d'astronome joue-t-elle sur la directivité de votre regard?
Alors, je suis probablement le pire critique de mon propre travail, et je cherche toujours les problèmes. Donc, je cherche ce qui est pas normal. D'accord. Donc il y a toujours cet élément dans l'image et avec le souhait qu'un jour, si je trouve quelque chose de paranormal et que c'est vrai, dans ce cas-là, il y a quelque chose de nouveau. Parce que l'œil s'habitue effectivement à trouver on voit les étoiles, on voit des galaxies un peu plus proches, on voit des nébuleuses diffuses qu'on va attraper de différentes façons. Et c'est toujours la question, que voit-on dans l'univers? Où se cache cette nouvelle composante? Où est la découverte? Et je le dis toujours à mes étudiants et à mes collègues, parce que je suis astronome, je collecte des données pour la communauté scientifique. J'incite tout le temps à les gens de regarder vos données. Ne vous contentez pas juste d'extraire une information que vous cherchez, parce que vous avez déjà un biais sur le fait que vous avez trouvé ce que vous cherchez, parce que c'est ce que vous mesurez. Allez un peu au-delà, regardez vos données. Et le problème avec une mission comme Euclide, c'est 6 ans, c'est un flot de données énorme. Hein. Comme je disais, ça demande toute une infrastructure colossale. Hein. Il y a le consortium Euclide a mis en place tout cela. On n'a pas les moyens, visuellement, d'aller inspecter chaque image. Donc il va falloir avoir tout un système diverses variétés informatiques qui va faire la gestion. Mais c'est presque dommage.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de ne trouver que ce qu'on cherche ?
Et c'est un risque, c'est exactement. C'est une très bonne remarque. Et donc moi, à mon niveau, j'essaie de voir comment, en tant que scientifique, maintenant, je peux appréhender ces données. Et j'espère que c'est le cas pour beaucoup d'autres dans la communauté, pour voir est-ce qu'on rate quelque chose.
Est-ce que Jean-Charles Cuillet, je me fasse soigner, Jean-Charles Cuillandre, est-ce que il faut un œil neuf pour voir du neuf?
J'ai bien peur de dire oui, parce que là on voit en termes de technologie de disruption, hein, on a parlé des CCD tout à l'heure. C'est rare, c'est extrêmement rare de faire quelque chose qui est tellement nouveau que vous allez changer votre perception du monde. C'est valable dans de nombreux domaines, mais en astrophysique, c'est clair que par exemple le Webb, le James Webb de la NASA, c'est extraordinaire, un télescope comme ça, mais ça a pris comme 30 ans à le faire. Mais au final, quand on fait du neuf, on voit du neuf. Hubble, c'était la même façon. Euclide, et j'ai une confiance totale dans le fait qu'on va trouver des choses absolument extraordinaires. Parce que faut voir que on parlait de la maintenance de l'orbite, hein, AL2, etc. Et SpaceX a tellement bien lancé Euclide que la durée de vie du télescope est non de 10 ans. D'accord ? La mission sur l'énergie noire est de l'ordre de 6 ans. Donc il y a de la durée de vie. Donc ce télescope va faire bien plus que...
Ça veut dire que dans 6 ans, on devrait savoir si l'énergie noire a changé au cours du temps.
Voilà. Alors, c'est intéressant de voir. On parlait de la compétition internationale qui est bien présente. Donc, les Américains ont pris une longueur d'avance là avec un instrument qui s'appelle DESI, sur un télescope de 4 mètres qui est basé en Arizona à Kitt Peak. Et ils ont il y a moins d'un mois, juste après que vous m'ayez invité à venir ici, ils ont annoncé qu'ils ont une tendance. Alors, c'est une tendance statistique très faible, mais ils auraient peut-être une signature d'évolution du comportement de cette fameuse constante cosmologique. Mais c'est encore trop tôt pour juger.
Et vous-même, dans les images que vous avez vues, qui ne sont pas encore publiées, mais qui vont l'être incessamment, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris ?
Oui.
Vous avez le droit de les dire ?
Oui, allez. Donc, il y a cette chose, c'est quand, optiquement, et là, chapeau bas à Airbus, Industry pour pouvoir faire un télescope avec une qualité optique comme j'ai rarement vu. Les modèles, on a construit un modèle simple, nous, en tant qu'astronome, et ça colle tellement bien aux observations que ça veut dire que les optiques, essentiellement, sont parfaites dans Euclide. C'est rare, j'ai jamais vu ça. Et donc là, vous avez une capacité du télescope à voir des brillances de tout type. On voit des étoiles, on voit les galaxies, mais on voit également ce qu'on appelle des phénomènes d'interaction entre galaxies. Et je regarde ces images, elles seront publiées le 21, c'est que ça commence à ressembler à des simulations. Quand vous avez des galaxies qui interagissent entre elles, elles s'arrachent des étoiles, etc.
Voilà. Merci, on a hâte de voir ça. Merci Jean-Charles Cuillandre. On va écouter ensemble la chronique Avec Science qui est aujourd'hui dite par Pierre Repère. Elle concerne le placenta et l'effet que pourrait avoir sur lui la pollution.
La pollution aérienne peut impacter le développement des fœtus en passant par le placenta. C'est ce que nous apprend une étude française publiée cette semaine dans la revue The Lancet. On pourrait penser que dans le ventre de sa mère, le fœtus est à l'abri des particules de pollution, mais pas du tout. La pollution aérienne est depuis longtemps soupçonnée d'être à l'origine de pathologies cardiaques ou respiratoires chez l'enfant à naître. Or, dans cette nouvelle étude, une équipe de recherche de l'INSERM et de l'université Grenoble-Alpes s'est justement demandé comment ces maladies qui surviennent durant l'enfance peuvent résulter d'expositions très très précoces à des polluants aériens. Le placenta est un organe crucial au cours de la grossesse, c'est ce dernier qui va soutenir la santé de la mère tout en assurant le bon développement de l'enfant. Il régule notamment les échanges en oxygène et en nutriments entre la mère et le fœtus. Mais le placenta a beau être une barrière, il a déjà été prouvé que des particules de pollution atmosphérique peuvent l'atteindre et le traverser. Les scientifiques se sont donc penchés sur les mécanismes épigénétiques dans le placenta lui-même, c'est ce qu'explique Johanna Lepeul, chercheuse à l'INSERM et épidémiologiste environnementale qui a dirigé cette étude.
Donc l'épigénétique, c'est très simple. En fait, il y a les gènes, l'ADN, dont chaque individu est constitué. Ça, c'est quelque chose de fixe. Ça ne bouge pas au cours de la vie, au cours du temps. C'est comme une partition de musique qui a été écrite. La partition, elle ne bouge pas. Par contre, la manière dont vont l'interpréter les musiciens et l'orchestre va faire que certaines notes seront plus ou moins appuyées ou jouées plus ou moins fort. Et bien, c'est pareil pour nos gènes et notre ADN. Les marques épigénétiques vont faire que certains gènes vont être exprimés de manière plus ou moins intense. Et c'est cette régulation épigénétique à laquelle on s'est intéressé ici. Contrairement à la génétique qui ne bouge pas au cours du temps, ces marques épigénétiques, elles vont pouvoir évoluer tout au long de la vie. Donc, par exemple, la pollution de l'air qui pourrait influencer ces marques épigénétiques dans le placenta. Cette modification épigénétique du placenta, elle va pouvoir persister ou s'atténuer au cours du temps par des processus qui sont soit naturels, soit on peut tout à fait imaginer aussi développer des médicaments qui vont venir agir sur ces marques épigénétiques.
En fait, ce que les scientifiques ont étudié, c'est l'exposition de 1500 femmes pendant leur grossesse à trois polluants aériens, le dioxyde d'azote et les particules fines, inférieures à 10 et à 2,5 microns. Ces polluants proviennent pour l'essentiel du trafic de voitures, du chauffage urbain, des industries ou encore de l'agriculture. Et comme l'ont confirmé les chercheurs, ils altèrent bel et bien des gènes impliqués dans le développement fœtal. Un tiers des modifications qu'ils provoquent sont même liées au développement de l'enfant. Elles influent ainsi sur la durée de la grossesse, le poids et la taille à la naissance ou encore le périmètre crânien du nouveau-né. Mais d'autres modifications ont, elles, un impact bien plus profond encore.
Ce que l'on a montré, c'est qu'effectivement, plus les femmes étaient exposées à ces polluants de l'air, que ce soit le NO2, les PM10 ou les PM2.5, plus on observait de modifications épigénétiques. Avec, de manière intéressante, ces modifications épigénétiques, elles se produisaient sur des gènes dont on sait qu'ils sont impliqués dans le développement du fœtus et sur des gènes qui sont également impliqués dans le développement du système métabolique, du système immunitaire et du système nerveux. Donc ça, c'était un premier point. Et ce que l'on a observé aussi, c'est que ces effets des polluants de l'air sur ces marques épigénétiques placentaires, ils pouvaient, dans certains cas, être différents chez les filles et chez les garçons. Par exemple, chez les garçons, on a observé plus de modifications sur des gènes qui sont impliqués dans le développement du système nerveux, alors que chez les filles, on a observé plus de modifications qui sont impliquées dans la production de stress oxydant, qui va ensuite pouvoir être associé au développement de maladies chroniques métaboliques.
Suite à ces modifications, les filles pourraient bien avoir plus de risques, par exemple de développer des maladies comme l'hypertension, le diabète néonatal ou encore l'obésité. Les garçons, eux, risquent une atteinte du neurodéveloppement ou une réduction de leur capacité cognitive. S'il y a une différence selon le sexe des enfants, c'est parce qu'au cours du développement fœtal, les mécanismes physiologiques diffèrent assez rapidement chez les garçons et les filles. Les périodes de vulnérabilité aux modifications génétiques ne sont donc pas les mêmes au cours de la gestation, elles prennent place au cours du premier trimestre chez les garçons et plutôt vers la fin de la grossesse pour les filles. Maintenant, la prochaine étape pour les scientifiques consistera à suivre l'évolution de ces filles et de ces garçons et de leur état de santé à mesure qu'ils grandiront. Car si ces modifications épigénétiques s'avèrent inquiétantes, elles pourraient bien aussi s'avérer réversibles.
Merci Pierre Robert, merci à vous Jean-Charles Cuyandre d'être venu nous dire si le lucide Euclide pourra nous dire le contenu du ciel. Je dis ça parce que Euclide a pour anagramme lucide et a pour anagramme du ciel. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Alexandre Dang et à la réalisation Luc-Jean Reynaud.